Le peuple de la mer. Première partie, chapitre 4. Il avait venté toute la nuit, une bonne petite brise d'ouest qui passait amicalement comme une main frissonnante sur le dos des maisons endormies et agitait la crécelle installée par le brigadier Bernard dans son potager pour effrayer les oiseaux. Toute la nuit, cette cliquette avait battu nerveusement dans le village silencieux au-dessus du bruit doux de la mer. Le matin, il venta plus sec quand le soleil parut. Le ciel n'avait pas cette profondeur bleue des beaux jours d'été où l'azur est dense et coloré comme un autre océan. Il se développait ainsi qu'une gaze blanchâtre et lumineuse dont les plis pesaient en brume sur l'horizon. C'était le grand jour des régates. À regret, la mer baissait sur la plage d'or, tandis que les dos goémoneux des roches commençaient à émerger le long du chenal, luisant comme des carapaces de tortues marines qui auraient dormi à fleur d'eau. Les sloops appareillaient sans hâte. Sur la digue, ramageaient les vareuses propres, les caracos clairs, les bonnets blancs, les foulards vert tendre, roses et groseilles. Les mousses embarquaient des ballots de voile qui sentaient la cotonnade et le goudron. On criait, on s'appelait, on riait. La vieille barbe disait l'avenir de la journée. Les filles s'esclaffaient à toute gorge et jacassaient d'une voix pointue. Les hommes plaisantaient avec défi et leurs paroles clamaient la lutte.
« Beau temps pour s'aligner, les gars. Et de la brise au flot, que je pense, à souquer la toile. »
Le secours de ma vie débordait avec la gaude en sabots blancs et en jupons courts. La poitrine magnifique dans le corsage écarlate. Chargé d'hommes recrutés pour la manœuvre, le laissez-les-dire sortit sous la main de Perchet. Puis, ce fut l'aimable Clara, où Double Nerf exhibait ses glorieux biceps, parmi l'équipage qui chantait en vidant bouteille. « Il faut les voir, tous ces jolis garçons, quand ils s'en vont tout habillés de blanc. Il faut les voir, tous ces jolis garçons, quand ils s'en vont tout habillés de blanc. » Sans éclat, Urbain Coët glissa dans le sillage de la chanson qui sonnait sur le cristal des eaux calmes. D'autres chœurs s'enlevaient sur d'autres barques. Les sloops prenaient la file le long de la terre blonde. Et déjà, la rade de la chaise apparaissait peuplée de voiles sous le grand bois de chênes poussé dans la falaise. Les barques arrivent, décrivent d'un coup d'aile un demi-cercle dont la trace persiste et, leur air cassé, glissent encore, s'arrêtent, les voiles inertes, comme on meurt après un dernier soupir. Ce sont les chaloupes de Lepoix, noires et rondes, aux voiles cambrées, les porniquaises, peintes, et les cotres des sables, puissants, près des noirs moutrins aux culs grêles. Ce sont des Bretons ténébreux, dressant haut leurs deux mâts sans haubans, comme des pieux. Et puis, des yachts, aux coques glacées, aux ponts blancs éclairés de cuivre, des régatiers fuselés, râleaux comme des pirogues, dominés d'effarantes voilures. Des canots, des youyous circulent. Les ancres mouillent avec fracas, les poulies chantent en plainte rythmique, des voix, elles, des voix, des chansons, des rires, des jurons passent. C'est tout un tumulte sans violence, dilué dans l'air immense, amorti par l'eau. Un mouvement joyeux qui occupe l'adresse et la force des hommes. Une cohue d'embarcations actives. Ce sont des maillots bleus, des pantalons blancs, des éclats de vernis, de ripolin, et, sur la mer, les reflets verts, jaunes, rouges, des grands voiles éployés dans le soleil. Vision magnifique de la vie expansive, lumineuse, avec la mer qui palpite comme une poitrine, avec les gros bouquets de chênes qui poussent vers le ciel toute la fécondité d'une terre, avec les barques qui sont des êtres de lutte et de misère, avec les hommes vigoureux et souples, entraînés pour vaincre. le vent du large roulait à la cime du bois, en la faisant vivre au-dessus de l'estacade qui se chargeait de monde au point de paraître ployé. Des toilettes claires remuaient sur le remblai avec la houle légère des ombrelles. Il y avait des équipages sous la voûte de la grande allée, près des ânes de louage qui attendaient patiemment en écrasant leurs crottins. Les trois goustans étaient là, à côté au garde-fou. Couronnés d'un feutre noir, la boutonnière, adornée du ruban tricolore, grand-père exhibait des breloques d'argent sur son ventre creux. Les gars, en chapeau de paille et en manchette, l'encadraient, et à chaque poignée de main, ils entonnaient d'une seule voix. « Vous l'avez vu ?»«
Quoi ?»« Notre bateau, le dernier qu'on a fait. Tenez, là-bas, près du Breton, le grand sloop bleu. »«
Oui là, dame, c'est de la belle ouvrage.
Et ça marche que le diable, il va rafler tous les prix. »
Le dépit des envieux oscillait doucement de son grand mât avec des airs calmes et entendus, tandis que son long bout dehors encensait sur les houles mortes. Une femme embarquait dans le canot accosté. Des enfants furent passés à bout de bras, et un homme nagea vers l'estacade où Louise Piron attendait la Marie-Jeanne. Extasiés devant leur œuvre, les goustans poursuivaient ingénument leur réclame admirative, et François affirmait qu'il n'y avait jamais eu à flot meilleur bateau, qu'il courait plus vite que le train, et que, vent arrière, c'est point le vapeur qui le rattraperait.
Par instant, on entendait grincer la crécelle des loteries, où tournent des pyramides de vaisselle devant la convoitise des amoureux qui rêvent de ménage. Les pétards de la tête de Turc éclataient coup sur coup en proclamant la force des gars. Les rires se mêlaient aux cris. La joie montait dans le soleil avec une poussière blonde au-dessus de la foule agitée d'une grosse rumeur sans piétinement, parce que le sable mangeait le bruit des pas. Louchon, le facteur, efflanqué sous la blouse, flânait en compagnie du ventre de Zacharie. Des gaillards déambulaient vers le bois, un litre sous chaque bras et des charcuteries dépassant la poche. Malchaussée, qui avait construit hier l'estrade du jury et planté six mâts, circulait affairé, en bras de chemise, suivi d'un compagnon, la masse à l'épaule. Sous la tente, les autorités braquaient des jumelles. Autour du fort Saint-Pierre, où l'artificier bourrait les mortiers, deux gendarmes contenaient les galopins. Brusquement, un coup de canon fixa la foule. Le remblai mouvant se retourna d'une pièce vers la mer. Un grand drapeau tricolore descendait paisiblement d'un mât et une petite fumée s'enlevait jusqu'à la crête du bois où le vent l'emporta. Des youyous, des plates, des bordes de partout, chargés de gars robustes qui montrent leur poitrine et des bras nus, bleuis de tatouages. Les peaux basanées, fermes sur les muscles durs, les gueules barbues rutilantes, les poings massifs, les reins sanglés grouillent tumultueusement sur les pilotis, les échelles et dans les canaux secoués par le flot vif. On chante, on jure, on s'interpelle. Des casquettes sont brandies et des litres vidés à même le goulot. Et sur tout cela, du soleil à profusion. Une atmosphère lumineuse et chaude qui excite encore la vie déchaînée sur cette mer transparente, féconde et gonflée. Vivante aussi. Déjà, les yachts croisent sous voile, blancs fuseaux qui emmêlent leur sillage autour des chaloupes. Les grands portent haut toute leur voilure, étarquée à bloc et si plate qu'elle se confond avec le mât au virement de bord. Les petits ont serré de la toile parce qu'ils ventent toujours sec, hors de l'abri du bois. Ils évoluent sûrement, prestement, inclinés sous une rafale, puis redressés avec lenteur, courant sur leur air les voiles battantes ou fuyant vent arrière, la mâture ployée en avant. Couchés sur leur pont, pour diminuer la résistance, les hommes immobiles ont par intervalles des gestes forts, précis, mécaniques, qui changent d'un coup l'allure du bateau. L'âme des hommes et l'âme des barques est maintenant la même. Leur sang bat au-delà de leurs artères, jusqu'au fond de la quille tranchante, jusqu'au sommet du flèche tendu. Leurs muscles travaillent dans le gréement qui crie. Ils évoluent avec la barque, penchent, roulent, gémissent avec elle. Il n'y a plus qu'un être vivant, puissant, aux multiples yeux contractés d'attention, qui se meut pour la lutte parfois meurtrière, toujours sans merci. Un coup de canon. La fanfare, en location, déchaîne ses cuivres dans une Marseillaise vigoureuse. Au Fort Saint-Pierre, le drapeau est amené. Les grands yachts coupent la ligne en paquets et courent au large, dans le ballonnement lumineux de leur voilure, vers l'est où paraît le point noir de la bouée. Le ciel est toujours d'une blancheur brumeuse, à peine brouillée d'azur, la mer vert émeraude, hachée de traits d'écume. En tête, on reconnaît les deux hautes silhouettes du Mab et de l'Elga. Successivement, les bateaux de plaisance partent en série, distingués par un guidon qui bat à leur grand voile. Des barques à moteur jouent sur rade ou suivent les petits régatiers qui fuient la côte comme des mouches d'eau légère et imprudentes. Maintenant, les rudes chaloupes restent seules, mouillées en rang par le travers. Les sablés sont en avant, et derrière eux s'alignent les noirs moutrins avec la coque blanche du laissez-les dire en tête de file. Depuis le matin, Perchet monte la garde à son bord pour empêcher son concurrent de lui voler sa place. Puis viennent le Secours de ma vie, avec sa large ceinture d'ocre rouge, le Bon Pasteur, noir et blanc, l'aimable Clara, vert et rouge, où Double Nerf mène un cœur de forcené. Puis le Dépit des envieux, calme dans sa robe bleue pâle, rehaussée d'outre-mer. Puis les coques grises du Brin d'Amour, du Bec Salé, et d'autres, l'Espoir en Dieu, le Vas-y j'en viens, l'Étendard du Christ, et d'autres encore aux couleurs vives, luisant sous l'arrosage des vagues qui les roulent en raidissant leurs amarres tirées brusquement de l'eau avec un bruit strident d'aspiration. Les mâtures oscillent avec ensemble. Les hommes sont à leur poste, pendus aux drisses, la tête nue, immobiles dans le vent. Une impatience fébrile exaspère les plus modérés. Les secousses des barques se répercutent dans leur thorax où le cœur saute. Des ordres, des jurons brefs partent comme des balles. On voit le caraco rouge de la gaude flamber sur le Secours de ma vie et la stature de Perchet dominer pesamment l'arrière de son bateau. Les regards mangent la terre dans l'attente du signal. Et sur toute la chaîne des sloops, un grand souffle de force brute gonfle à éclater les poitrines et les coques. Un coup de canon. Oh, is, hardi petit gars, oh, is! Par grande pesée, les lourdes voilures s'enlèvent, flasques, loqueteuses, puis, éployées brusquement, arrachent les barques du mouillage. Les palans forcés geignent de douleur. Les hommes, accrochés par grappes, étarques à coups de reins. Et les voiles se tendent, s'aplatissent, crispant leurs empointures, tandis que les hommes se ruent sans cesse à grands cris. « Hardi, garçon ! Oh, is ! Oh, is !» Le Bon Pasteur tombe sur l'aimable Clara, et les deux haquenettes s'insultent sauvagement, bord à bord. Il n'y a plus de frères, mais des ennemis qui gesticulent comme des singes fous. Soudain, le foc du Vas-y j'en viens se fend du haut en bas et s'envole en guenille. Au large, les yachts virent la bouée de la Vendette et courent au plus près sur Pierre Moine. Les sablés endiablés filent sur la même route et tout de suite après s'avance parallèlement la voilure bleue du Laissez-les dire, la voilure rousse du Dépit des envieux. Les deux sloops ont appareillé aussi promptement l'un que l'autre et pris ensemble la tête de leur série. Malgré la forte brise, ils établissent chacun leurs flèches, téméraires, et se défiant dans leur marche de front. À bord, les équipages à plat ventre guettent silencieusement les manœuvres réciproques. Urbain Coët est agrippé à sa barre, petit, ramassé, la face au vent, les regards sautillant de la barque à la bouée. Perchet, au contraire, est rejeté en arrière, la poitrine largement développée, la casquette sur les yeux, et des deux mains, il s'arc-boute à une barre neuve. Sur l'estacade, la Marie-Jeanne a retrouvé le père Couillot et ses deux sœurs. Elles sont assises avec leurs enfants entre elles, les jambes pendantes au-dessus de l'eau qui forment et déforment inlassablement des lacis d'ombre et de lumière dans les pilotis au-dessous d'elles. Les taches mobiles s'étendent, se rétrécissent, se pénètrent, se divisent, animées d'un mouvement amiboïde qui fait ressembler ce coin de mer à une nappe grouillante de cellules vives. Les trois femmes bavardent aigrement, poussent des cris par intervalles en désignant le large où les voilures multicolores se poursuivent avec acharnement. « Regarde, regarde, la bouée, il vire !»« Mais c'est Perchet qui est devant !»« Oh, je pense ben !»« Mais puisque je te le dis, tu vois donc point, c'est des voiles bleues ?»« Oh, dame, oui !»« Oh, le fils de Vesse, il s'a fait dépasser !» « C'est-il du malheur tout de même ?» François Goustan arrive à la course, braque une jumelle cuivreuse, jure et appelle son frère. « Théodore, viens donc ben vite. C'est Perchet qui est le premier. » La consternation est générale. Là-bas, le grand flèche rouge du dépit des envieux apparaît tout ensoleillé derrière la pyramide bleue du laisser-les-dire. Coët est gagné de 50 mètres. Mais pour atteindre Pierre Moine, il faut naviguer auprès, et déjà s'affirme la supériorité de la barque neuve qui s'élève au vent sans perdre de vitesse. Sur l'estacade, François, la lorgnette aux yeux, jette comme s'il donnait un coup de dent. Cette fois, il le bouffe! Les grands yachts commencent leur second tour, filant droit, s'entanguer presque, et passant au travers des vagues qu'ils ouvrent comme un soc. L'eau ruisselle sur les ponts de bout en bout, claque les îloirs et s'enlève parfois d'un bond au creux des phoques qui, cernés d'humidité, s'égouttent entre les douches. L'embrun trempe les hommes, cramponnés à ces coques submergées où ils manœuvrent les bras dans l'eau. Quand la mer est grosse, les régates sont de terribles luttes. L'Elga vire le premier, vent arrière, la bouée de la rade. Et soudain, dans le changement brutal de la grand-voile, un homme est empoigné en plein torse, culbuté à la mer. Le cri de l'équipage roule jusqu'au bois. Dans le sillage, des bras et une tête se débattent, mais le patron commande. « Tout le monde à son poste! Les suivants le ramasseront !» Et c'est le mab qui, au passage, casse son air, cueille les paves humaines et continue la course. L'Elga fuit toujours, 100 mètres en avant, implacable. La pitié acquise au cours des siècles s'est effacée du cœur des hommes. Il n'y a plus que la bête de combat meurtrière. À bord des yachts élégants et des chaloupes frustes, l'animal est le même, et la passion de vaincre son semblable, réveillée aussi formidablement chez l'un que chez l'autre, fait éclater d'un coup, à la chaleur du sang, le vernis des éducations. Bord sur bord, au louvoyage, Coët a gagné Perchet. Mais le dépit des envieux double trop largement la bouée de Pierre Moine et Perchet en profite pour essayer de passer sous lui. Les deux équipages se guettent de tous leurs yeux, écoutes en main, prêts à virer à l'ordre. D'une poussée, le laisser-les-dire s'engage sous le concurrent. Quelques brasses séparent les sloops, et la grande ombre du dépit des envieux s'abat soudain sur le laisser-les-dire, en masquant à la fois le soleil et le vent. La voilure de Perchet phaseille. Sa barque se redresse, tangue, perd sa vitesse. Il porte la barre au vent et hurle.
« Envoyez ! File les phoques, file !»
Les écoutes battent le pont à coups secs. Les voiles claquent comme des tentures. Mais le sloop étalé incline à peine sur bâbord. Il est trop tard. Le dépit des envieux déploie son abatté, les phoques portent en plein et tombent d'une masse sur le laisser-les-dire. Coët n'a rien fait pour pour éviter la collision. Perchet est dans son tort et lui devait la place. Les deux barques se heurtent. La mer bouillonne un instant entre elles et rejaillit en gerbe. Une secousse, un craquement. Le bout dehors rompu du laisser-les-dire tombe à la mer en entraînant le phoque.
« Nom de Dieu, de nom de Dieu !»
Perchet s'est dressé tout debout, énorme et sacrant. Et, comme à un signal, son équipage bondit à l'abordage en hurlant des injures. C'est un assaut forcené, dans un tumulte de vociférations, une ruée à la course, tête première, que les matelots de Coëte reçoivent comme il convient, à coups de poing.
« À mort, salaud ! À la mer ! À la mer !»
Des bras, des épaules, des coups formidables s'agitent au-dessus des maillots. Les coques sonnent sous le galop de la lutte, s'enlèvent aux vagues, s'écorchent. Des hommes roulent en bas, le thorax enfoncé. Un piron étouffe un David. Léon mord une oreille. Du sang rougit le pont. Et brusquement, une lame fend la grand voile du dépit des envieux qui siffle en se déchirant. À la pointe de l'estacade, l'énervement remue la foule tassée entre les garde-fous. Il y a là toutes les femmes des combattants, Malchaussée, Louchon, Labosse le douanier, Zacharie, le brigadier Bernard et les trois Goustans. La lorgnette braquée sur Pierre Moine, François crie ses observations à l'assistance.
« Il s'aborde. Le phoque du dépit des envieux est à l'eau.
« Non, c'est celui de Perchet, un phoque bleu.
« Ils se battent, nom de Dieu, ils se battent.
Perchet devait virer au large de Coëte. Urbain est dans son droit. »
Mais la Perchet jette rageusement.
« Il a toujours raison, c't fils de Vesse. On passe où on peut.
« Pourquoi qu'il y a des règlements, alors ?»
rétorque sévèrement le brigadier Bernard.
« Parce qu'il y a de malhonnêtes gens, » fait la Marie-Jeanne. « Sans ça... »«
Qu'est-ce qui lui parle à ce putain ?»
« Tu rages parce que ton homme s'a fait battre ?»«
Bien sûr, Perchet a trouvé son maître, puis le temps qu'il crânait. »«
Coët est dans son droit. »« Perchet s'a foutu en travers en exprès. »« Menteur !»«
De quoi ?»
Les vieilles chaînes qui enserrent la foule font le ventre. L'estacade paraît osciller comme un navire, tant les coiffes et les chapeaux houlent tumultueusement. Les parties se divisent, la dispute s'envenime et de terre, le public accourt vers les cris. L'arrivée des plaisances passe dans l'indifférence malgré le canon. Tout l'intérêt est là-bas, dans ces deux grands sloops embrochés au large et sur lesquels des hommes se hachent.
« Coët se dégage ! Il part, il part !»
Alors le père Couillot, qui se triture le nez avec ses prises depuis le commencement des régates, émet une sentence aux oreilles de sa fille.
« Ton homme est ostiné, c'est vaillant !»
Maintenant, le dépit des envieux se détache seul devant son abordeur. Lentement, sa haute voilure se charge devant, s'incline, d'un effort répercuté dans les nerfs tendus des spectateurs, qui mesurent avidement la distance croissante entre les deux barques. Le sloop qui court au plus près vers la terre semble un grand aileron noir jailli de l'océan, sorte d'immense faux pointé au ciel, parce que ses voiles en enfilade ne montrent que leur côté ombreux. Et il avance, rapide, tranchant, soulevé par secousses aux heurts des vagues. Coup sur coup, le secours de ma vie et l'aimable Clara dépassent le laisser-les-dire en avarie à la bouée. Par moments, une explosion blanche fulgure à l'avant des barques, du côté du soleil, éclatement d'écume qui les couvre jusqu'au mât. Car, bien que la brise mollisse un peu, les crêtes neigeuses dansent toujours, naissent et meurent avec des caprices de flammes sur la mer crue où la lumière pèse à l'horizon comme une vapeur. Les mortiers bombardent devant le jury chaque fois qu'un vainqueur coupe la ligne. À bord, les hommes répondent à toute poitrine, les casquettes sautent, les bras trépignent, et dans la même détente joyeuse, après le surmenage de la lutte âpre, on voit les bateaux courir au hasard, virer, manœuvrer au petit bonheur, les voiles battant, puis brusquement casser leur air et s'arrêter au bout d'une grande glissade. Les you-you, à morte charge, rallient la terre. C'est tout un mouvement de petites embarcations qui circulent à force de rames, avec des rires et des chansons, sur l'eau dont le verre s'alourdit dans l'ombre projetée du grand bois. Et soudain, un cri formidable s'élève.
« Bravo, Urbain ! Bravo, Coët ! Coët ! Coët !»
Un roulement de pieds ébranle l'estacade. La foule vibre d'un grand spasme qui fait hurler des gens sans savoir pourquoi. Le chapeau de François domine, à bout de bras, tandis que le père Mathieu passe un doigt sous ses besicles pour essuyer le suintement de ses vieilles paupières émues.
« C'est sorti de nos chantiers !» répète-t-il. « C'est sorti de nos chantiers !»
La Marie-Jeanne a serré dans ses jupes ses deux petits qui désignent la barque bleue en criant « Papa ! Papa !» Elle sent quelque chose battre violemment sous son caraco, de la même façon oppressante qu'autrefois quand elle rejoignait en cachette son Urbain dont elle n'était que la promise. Elle est satisfaite de voir un peu de joie frissonner dans les rides du vieux Couillot et Louise Piron, qui jubile, le sang aux joues, agiter le foulard groseille que lui a donné Léon. Son bonheur s'avive à la gloire et s'amplifie d'orgueil. À bord, les hommes sont immobiles, étrangers à l'ovation, l'œil sur la bouée. Au coup de canon seulement, leur cri salue la terre. Le dépit des envieux met en panne et amène ses phoques. Déjà, le secours de ma vie arrive, bon second, et les mâles acclament la gaude, debout à l'avant, les jambes nues, la gorge libre. Puis, c'est l'aimable Clara, où s'agite double nerf, le poitrail au vent, les biceps au cran d'arrêt. Puis, le brin d'amour, le bon pasteur, l'étendard du Christ et les autres. Les voilures colorées, les coques luisantes d'eau évoluent de nouveau sur rade, dans la lumière plus dorée de 4 heures et le calme précoce du soir. Car le bois de la chaise s'épaissit d'ombre douce et il passe moins de vent dans le faîte ensoleillé des grands arbres. Depuis longtemps, on a vu le laisser-les-dire accoster l'estacade sans finir la régate. Et perchait, débarqué, farouche, la casquette sur les yeux, les bras ballants au torse. Et, à la distribution des prix, le jury annonça que le dépit des envieux et le laisser-les-dire étaient déclassés pour abordage. La foule des maillots bleus frémit du coup. Un souffle de colère emporta les raisons. Les équipages étaient face à face, les poings prêts, réclamant justice et s'insultant tout à la fois. L'envie haineuse avait trop fermenté au sang des hommes dans cette journée de défi, et la bataille terrible qui menaçait depuis le matin allait éclater sans merci. Des messieurs, le maire, s'interposèrent.
« Allons, mes amis, du calme !»«
Le premier prix à Coët !»
jeta une voix. Mais le caraco rouge de la gaude parut hors des rangs.
« S'ils sont déclassés, Percha et Coët, c'est nous les premiers !» dit-elle.
Un yachtman cria « Bravo !» d'enthousiasme, et le maire approuva en souriant à la belle fille.
« Avec un matelot comme ça, on se passerait de mousse !»
La meute des pêcheurs grondait par derrière, discutant l'abordage, les avaries, la grand-voile trouée, le bout dehors rompu. Percha demeurait immobile, les bras croisés au pied d'un poteau. Et la Marie-Jeanne tirait vainement son homme pour l'entraîner. Urbain Coët semblait très calme, mais il voulait rester là jusqu'au bout, crânement. Les goustans se montraient les plus indignés, et tout soudain le grand François lança parmi les vitupérations.
« Et puis, on s'en fout de leur prix. Le dépit des envieux a battu, laissez-les dire. Hein ? Battu à plate couture. Alors, le reste, on s'en fout. »
Cette fois, Percher remua. Il tourna vers François sa poitrine, sur laquelle des points dans la laine dessinaient une encre et, les épaules secouées,
« Répète !» dit-il.
Un plissement tragique ravinait son front carré entre les sourcils fauves. Sa mâchoire, restée pendante après la dernière syllabe, avançait un maxillaire féroce, armé de chicots noirs. et le poil ardent de son cuir tavelé se hérissait. Déjà, Malchaussée et le père Olichon étaient entre eux. Mais Urbain Coëtte s'avança et dit simplement « Je te propose la revanche. » Perchel l'écrasa d'un mauvais regard, puis il siffla.
« Je la prends des bains, mon fils de Vesse. »
Et il partit, en broyant le sable sous ses lourdes galoches. Alors, le jury décerna le prix au secours de ma vie, patron Olichon. Mais c'est la Gaude qui vint recevoir la jumelle offerte par le ministère de la Marine et les 50 francs.
« On aurait pu donner 3 pistoles au constructeur, » regretta Urbain en regardant les louis aux mains de la Sablaise.
« T'inquiète donc pas, » fit la Marie-Jeanne avec fierté. « C'est toi le vainqueur, tout de même. » Or, dans cet instant, le père Couillot s'avança pour lui serrer la main.
« Ton bateau marche bien, mon gars, » dit-il. « Mais ils rapporteront guère. C'est point toujours ceux qui plantent, qui récoltent. »
À propos, le vieux Mathieu intervint pour proposer une cerise à l'eau-de-vie, une cerise du jardin, et c'est ma Bru qui les confie. Elles sont vraies goulayantes. Mais, n'ayant pas le cœur à trinquer, Coëtte s'excusa et rembarqua avec sa femme et ses enfants. Des yachts et des chaloupes s'éloignaient déjà vers Saint-Nazaire, vers Pornic, vers les Pois, sur la mer plus plate, maintenant que le vent tombait avec le soleil. La mer n'était plus l'eau vive, lourde de fécondité, épaisse de couleurs, moutonneuse aux heurts de ses nappes vertes, mais la table d'émeraude lentement polie, pour prendre d'un seul reflet tout le ciel au couchant. Les tons s'affinaient vers l'horizon, s'imprécisaient, mélange brumeux d'or, de rose, de réséda, de gris, où une voile lointaine mettait l'harmonie de sa courbe et l'émotion émanée des vies humaines qui s'en vont. Un vapeur emporta la musique qui déchaînait une Marseillaise avinée. L'ombre du bois croissait sur les eaux, où des barques avaient une immobilité grave de penseur, car on sentait bien que ce n'était pas là des choses mortes. La tête de Turc pétaradait toujours sous la masse des jeunes hommes fiers de leurs biceps, tandis que d'autres payaient aux galantes la loterie où tourbillonnent des carafes cabossées, des verres coloriés et des assiettes au fond desquelles sont peintes nos gloires militaires. Des chargements partaient vers Noirmoutier, en voiture à âne, avec la loueuse qui trotte par derrière, pieds nus, un journal en voûte sur le front. Des couples se démasquaient tour à tour parmi les chênes, et, dans la chaleur balsamique du sous-bois, stagnaient des fumées de vinasse, des puanteurs de crottin et de sueur de bête. Les matelots gagnaient la ville, par bandes, bras dessus, avec les filles, en redisant les chansons du service.
C'est le dimanche après dîner que ces braves matelots s'en vont s'y promener.
Les rangs ondulaient comme un ruban, s'élargissaient, se resserraient, avançaient toujours, en flottant, au rythme des chœurs où braillaient des femmes.
« Il faut les voir, tous ces jolis garçons, quand ils s'en vont, tout habillés de blanc. Si par malheur l'un d'eux fait une tache, l'autre lui dit « Cochon, faut que tu te décrasses, avec de l'eau et du savon, ou bien tu n'auras pas du vin dans ton bidon. »
Les plus ivres discutaient encore la régate, nez à nez, au bord du chemin, tandis que les anciens parlaient avec émerveillement des barques d'autrefois qui ont contenu leur jeunesse. Les refrains s'espaçaient et arrivaient par bouffées, toujours de plus loin. Le tumulte des hommes s'éloignait vers la ville, où il y avait, sur la place d'armes, des balançoires de Belfort et un tir à la cible. Louise Piron passa au bras de Léon Coëtte, affichant crânement son homme. Elle avait dérobé des conserves et lui portait une miche sous le bras. Ils mangèrent au carrefour, sous le profil sec de la croix qui tranchait le crépuscule. La route s'allongeait bleuâtre, vers la ville féodale, sur l'horizon, avec les pointes des tourelles et du clocher, le cube du château. Des voix traînaient encore par les champs.
« Si tu n'as pas de savon, fous-y de la potasse,
Allons, va te laver, garçon, ou bien tu n'auras pas du vin dans ton bidon. »
Ils revinrent tard, dans la paix où le vent et la mer n'existent plus. Et, courbattus d'amour, ils flottaient aux bras l'un de l'autre, dans le calme large de la nuit, quand la Louise heurta deux corps et poussa un cri. Puis elle rit de reconnaître son père et le nain, assommés par l'alcool, au bord du fossé.
« Tu te saouleras pas comme ça, toi !» dit-elle à Léon.
Un groupe les rejoignit. Gault, porté à bras par Olichon et sa femme. Doublonner lui avait enfoncé trois côtes à cause de la gaude qu'il voulait caresser chez la mère Connard. Le blessé gémit. La Louise serra le bras de Léon.
« Tu m'aimeras comme ça, toi ?»
Mais rancuneux à l'équipage qui avait touché le premier prix, il songeait que Gault n'avait pas volé son coup de poing dans le thorax. Par derrière, le grand bourrache fredonnait en chambranlant
« Allons, va te laver, garçon, ou bien tu n'auras pas du vin dans ton bidon. »
À perte de vue, au ras des marais, les étoiles fourmillaient imperceptiblement.